Merci d'écouter Inter, il est 19h22.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur le bac, les épreuves démarrent demain avec la philo pour les filières générales et technologiques. En tout, ce sont 720 000 élèves qui vont se confronter à ce rite de passage républicain qui ouvre la porte aux études supérieures. Jusqu'à 20h sur Inter, les derniers conseils avant le grand saut, toutes vos questions, y compris les plus pratiques sur tous les sujets qui vous inquiètent, vous les élèves, vous les parents, vous les profs aussi, pourquoi pas. Conseil également pour l'épreuve de philosophie, quel sujet choisir, comment trousser une bonne dissertation ou un bon commentaire de texte. Si vous me permettez un conseil, je ne suis pas spécialiste, mais l'appréhension est normale. Essayez aussi de prendre du plaisir dans les jours qui viennent. C'est important, le plaisir. Les correcteurs le voient et le sentent, les copies s'en ressentent. Bienvenue dans le téléphone sonne.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Zachary, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es Zachary de Rennes.
C'est ça.
Ah, très heureux de te retrouver, non pas pour un téléphone sonne politique, mais pour parler des choses sérieuses. Raconte-nous ta vie, Zachary.
C'est ça, donc moi je suis en première, donc demain je passe l'écrit de français. Et je me demandais si ça pouvait être une bonne idée, soit de faire allusion à d'autres matières, quelques petites notions encore à l'actualité, ou si c'était un peu risqué.
Tu penses à quoi exactement? Donc tu as une dissertation de français, tu veux parler de quoi d'autre?
Pareil, je pensais à de la socio, par exemple. Oui, enfin, pas une formule de maths, mais oui, enfin, des petits thèmes sociaux ou des choses comme ça, ouais.
Pourquoi pas une formule de maths en même temps, hein? Comment tu comptes te servir de la socio? Donne-nous un exemple de la socio dans le cadre d'une dissert de français.
J'y pensais hier, en fait, cette question par rapport au personnage de roman, notamment. Mmh. Et à l'apprentissage, et voilà.
Non mais c'est possible, hein. Pense qu'on peut le dire. Tu as bien révisé pour le reste?
Ça va, je termine là, ce soir.
Comment t'as révisé le français?
L'écrit, je relis les notions, j'ai acheté des bouquins et voilà.
Et tu vas te réveiller demain ou tu vas rester endormi comme tu l'es là?
C'est à 14h donc j'ai même le droit à une petite grasse mat.
Et donc t'as prévu quoi ce soir? Tu sors puisque l'épreuve est à 14h?
Couché 8h quand même, je pense.
8h, tu vas t'en...
Non mais ouais, je vais relire un peu et...
Et voilà. Tu avais des œuvres au programme?
Oui, j'avais le Père Goriot de Balzac, Alcool d'Apollinaire, Marivaux.
C'est bien. Quoi de Marivaux?
L'île des esclaves.
Ah, très bonne pièce. Bon, on va essayer de répondre à ta question, Zachary. Reste en ligne. Invité du téléphone sonne, Julie Mlechko. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef de Studirama, Brigitte Pro. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne professeure de français, formatrice et psychopédagogue. Formatrice en quoi?
Formatrice sur les axes de la motivation et de la communication.
Auprès de qui?
Auprès des enseignants.
Oui.
Mieux communiquer avec les élèves et leurs parents, mieux communiquer avec les collègues, se positionner en tant qu'adulte professionnel dans sa classe.
Vaste programme. Oui. Aïda Ndiaye, bonsoir.
Bonsoir.
Agrégée de philosophie, enseignante au lycée Alain du Vésinet à Paris 2. Vous avez publié chez Ellipse 16 textes clés pour réussir le bac philo. Que répondre à Zachary?
Moi, je pense que oui, on peut tout à fait citer utiliser d'autres disciplines dans une discipline. L'important, c'est que ça ne prenne pas le pas sur la discipline principale. Alors, en philosophie, c'est assez particulier parce qu'on arrive au terme de leur cursus scolaire et on est invité à le faire. Zachary parlait de la sociologie. Moi, j'ai des élèves de terminale ES. C'est sûr qu'en philo, ils peuvent utiliser les sciences économiques et sociales et inversement. La littérature, bien sûr. L'année dernière, il y avait eu un sujet sur l'histoire et sur l'intérêt d'étudier l'histoire, utiliser les connaissances qu'ils ont en historiographie. Voilà. Mais il ne faut pas, en philosophie par exemple, que les références littéraires ou historiques soient plus importantes que le contenu proprement philosophique.
C'est une question de mesure. Brigitte Pro, vous qui avez enseigné le français, que dites-vous à Zachary?
La même chose, c'est-à-dire toutes les références sont vraiment intéressantes. L'essentiel, c'est qu'il y ait le cadre du sujet bien respecté. Si ça emmène Zachary sur des développements sur Pierre Bourdieu, hein, il a parlé de sociologie, par exemple, Pierre Bourdieu ou quelqu'un d'autre.
Il a fait de la sociologie, de la littérature, Pierre Bourdieu, quand même.
Alors, tout à fait. C'est bien ça, effectivement, pour moi, qui est positif. C'est-à-dire, si c'est une référence à Pierre Bourdieu pour éclairer un argument et si cela reste dans le cadre du sujet, c'est formidable. Toutes les références qu'il aura en interdisciplinarité, pour le coup, sont intéressantes. Simplement, la seule limite, c'est ne pas dépasser le sujet. Et quand je parlais là de Pierre Bourdieu, si par exemple Zachary fait deux pages de copie, vous voyez, sur la sociologie, à un moment donné, s'il n'est pas ramené au sujet, là, il va y avoir problème. Mais si c'est pour illustrer, au contraire, c'est tout à fait intéressant, hein, puisque rester sur le tout disciplinaire français-français qui n'aurait rien à voir avec autre chose, ce serait vraiment pauvre à un moment donné. Donc toutes les références sont bonnes à prendre à condition que ça soit respectueux du sujet en fait.
Zachary, bien reçu.
Oui, ça lève un doute, mais merci.
Donc tu vas parler de sociaux éventuellement demain.
Bah, je vais essayer si l'occasion se présente.
Tu pensais à la sociologie de la littérature ou à la sociologie sociologie?
Non, sociologie, ouais.
Bon, regarde du côté de la sociologie de la littérature quand même.
Ouais, je vais. Oui,
et de la réception. Enfin, il y a plein de dimensions dans cette discipline qui peuvent te permettre de d'atterrir sur tes pieds. Bon courage pour demain, Zachary.
Merci.
Et bonne nuit. 8h du soir, hein. 8h du soir. À très bientôt. Donc, tu nous rappelleras pour nous dire quelles ont été tes notes.
Ah bah d'accord, je vous ferai le compte rendu.
Ouais, très bien. Zachary de Rennes, donc dans le téléphone sonne. Au revoir. Julie Mleschko, qu'est-ce qu'on peut donner comme dernier conseil, pratique d'hygiène élémentaire, mentale et physique avant de se rendre dans ce marathon?
Bon, coucher à 8h, j'y crois pas du tout.
Moi non plus.
Ça m'étonnerait bien que Zachary se couche à 8h. Ouais. Donc non, faire comme d'habitude. Alors sinon, si tous les jours vous vous couchez à 2h du mat, évidemment non. Mais rester, ne pas trop changer ses habitudes finalement. Donc ce soir, évidemment, réviser la fille. Et que la philo, ne pas réviser pas toutes les matières. Moi, je pense qu'il faut relire un peu les fiches, les grandes idées en tout cas. Ou alors peut-être là où on est un petit peu moins bon, où on sent qu'on a des faiblesses. Et puis, s'aérer et évidemment, non, pas se coucher trop tard. Et se préparer surtout. Se préparer, c'est-à-dire préparer des affaires pour demain, que tout soit prêt, le sac, exactement. Voilà, qu'il n'y ait pas de stress supplémentaire le matin.
Aïdan Diaye, réviser la veille pour le lendemain en philo, moyen, hein.
Moi, je ne suis pas contre, en fait. Je pense que pour certains élèves, et moi, c'était mon cas quand j'étais élève, ça peut permettre de gérer le stress. Donc, plutôt que de s'interdire de réviser et de rester à ne pas réviser en voulant réviser et en faisant de le faire, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose. Évidemment, il faut que ce soit des points précis.
Oui, parce qu'on peut prendre conscience de l'ampleur de son inculture la veille au soir. Ah.
Oui, mais bon, de toute façon, si c'est le cas,
c'est trop tard.
Sur le rythme de révision, Brigitte Pro, la veille au soir.
Alors, la veille au soir, le lycéen fait ce qui le sécurise, en fait. Pour moi, c'est le seul critère. Ça veut dire que Max s'est révisé deux points en maths, faire deux exercices, réviser deux premières pages d'un chapitre de philo. Pour Élodie, ça va être s'aérer et plutôt ne plus penser à rien. Et pour d'autres, ça va être dire, ah, il manque tel point là, pour telle matière, peut-être dans deux jours, j'ai besoin de le voir maintenant, ça me sécurise. Du coup, c'est ce qu'ils veulent, simplement ce qui les sécurise. Du coup, il s'agit d'avoir repéré ce qui les sécurise, bien sûr, mais on leur fait confiance pour ça, hein, puisque j'accompagne en ce moment un lycéen là qui a un gris-gris dans sa trousse, vous voyez, ben lui, il a décidé de toucher 5 fois ce soir à 21h un porte-clés fluo, vous voyez, il en fait un rite.
Il aura 5 sur 20.
Voilà. Il en fait un rite.
Il faut le toucher 15 fois. Oui, voilà. Non, mais un rite,
le lycéen
bien,
dont je vous parle a révisé. Hein,
oui,
il est clair
sûr.
Que là, c'est pas...
Oui, oui.
Mais un petit peu comme, vous savez, à Roland-Garros, certains tennismen
oui,
ont des... Voilà. Et du coup, lui, il dit, bon, je ferai ça, et puis je reverrai 2 ou 3 exercices, et c'est tout. Et d'autres vont s'aérer, vont faire du sport. Du coup, c'est vraiment personnalisé pour moi, cette histoire-là.
Les parents, on les gère comment? le stress des parents, parce qu'il y a le sien déjà qui est pas mal, mais celui des parents.
Le stress des parents aujourd'hui est plus conséquent que celui des lycéens, de façon générale. Je propose aux parents de reculer de 3 pas, je ne dis pas de 10 pas, hein, car la pire ennemie pour cette génération, c'est la solitude. Donc ils ont besoin de leurs parents pendant les épreuves du bac. Simplement, il s'agit de reculer de 3 pas. Et du coup, ne pas parler du bac, à un moment donné, laisser le lycéen parler lui-même du bac s'il le souhaite.
Oui, c'est ça.
S'il n'en a pas envie, il n'en a pas envie. Et puis surtout, les frères et sœurs aussi, le petit déjeuner, là. Ah ben voilà, super, là tu pars pour la philo.
Ne pas poser la question, par exemple, si tu rates, tu vas faire quoi?
Par exemple.
Que ma mère me posait systématiquement.
Ce n'est pas le moment. Écoutez,
ce n'est pas le bon moment. On sent le vécu,
c'est ce que j'ai essayé de lui dire pendant des années. Mais j'avais droit à cette question systématiquement.
Alors ça, c'est redoutable.
Vous avez vu dans quel état je suis aujourd'hui d'ailleurs.
Il y a de la résilience derrière ça.
Énormément, énormément. Je chéris ce mot.
En fait, à un moment donné, non, je fais un peu d'humour, évidemment, je ne rentre pas sur votre territoire.
Excusez-moi. Non, il n'y a aucun problème.
Mais en tout cas, là, évidemment, il y a la question de penser tout de suite plan B. Or, tant que les épreuves ne sont pas passées, rien n'est joué. Et du coup, la confiance doit être le maître mot dès demain, quoi, hein.
Saïd, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Oui, j'avais une question à vous poser. Alors, peut-être une question à poser directement au ministre de l'Éducation nationale.
Il n'est pas là.
Ça concerne la filière littéraire. Oui, mais peut-être que je sais qu'il c'est un fervent auditeur de France Inter.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, c'est une question qui concerne la filière littéraire, parce que j'enseigne la philosophie donc en classe de terminale au lycée, dans les Yvelines. Et depuis quelques années, je suis professeur principal d'une classe de terminale L. Il se trouve que la filière littéraire a cette particularité dans le système éducatif français qui veut que c'est, à ma connaissance, la seule filière pour laquelle une grande partie du baccalauréat se joue autour d'une matière, la philosophie, qui n'est pas connue avant la classe de terminale. Donc, quand on est orienté en filière littéraire, on va jouer son bac en grande partie sur une matière qu'on ne connaîtra qu'à la fin. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal, puisque quand on s'engage en S ou en ES, on a eu l'occasion de faire des sciences, éco en seconde éventuellement, et pas en filière littéraire. Donc je trouve que c'est assez étonnant, et ça mériterait peut-être d'être corrigé, tout simplement en enseignant la philosophie de manière soit expérimentale, soit en essayant de généraliser un enseignement au préalable avant la terminale.
Les élèves que vous avez en terminale L, donc littéraire, sont inquiets avant cette épreuve-là? Ils ont le sentiment, Saïd, qu'ils jouent tout?
Ben oui, bien sûr, parce que c'est un coefficient très important, coefficient 7. On en mange 8 heures par semaine en terminale L, hein, donc on essaie de corriger, si vous voulez, je sais pas comment on peut appeler ça, ce défaut qui veut que on n'a pas connu la philo avant, mais ça renforce aussi en grande partie, à mon avis, les inégalités. Bon, il faudrait le mesurer, mais si vous voulez, quand on vient d'une famille, d'un milieu social qui fait qu'on a pu connaître et découvrir la philosophie avant, ben on est forcément avantagé.
Merci Saïd, restez en ligne. Aïda Ndiaye, que pensez-vous du stress, je dirais, inhérent à cette filière-là?
Je pense que c'est un stress qui peut-être existe, à mon avis, plus en début d'année qu'en fin d'année. Donc Saïd disait qu'effectivement, on a 8 heures en terminale L, ce qui est 2 fois plus qu'en ES, et en S, il y a 3 heures. Or, le programme en L n'est pas du tout, en fait, 2 fois plus conséquent. Il y a 3 ou 4 notions en plus qui sont, si je puis dire, des petites notions, des notions transversales. Enfin, ce qui fait qu'en L, c'est quand même la filière dans laquelle on a vraiment le temps de finir le programme totalement. Moi, j'ai pu passer parfois une semaine entière sur un devoir en reprenant le devoir depuis le début, à partir des brouillons des élèves, en le retravaillant. Dans certains établissements, il y a en plus 1 heure d'accompagnement personnalisé. Et après, je crois aussi, c'est le cas dans mon établissement et je pense dans pas mal d'autres, ça s'est beaucoup généralisé, l'initiation en première. Justement parce que, à mon avis, le vrai problème, c'est pour l'orientation en TL, ce qui fait qu'il y a une retenue et que la filière L, quand même, décroît considérablement, probablement parce que les élèves, effectivement, ont un peu peur de s'engager dans cette filière sans connaître la matière. Donc, il y a, je crois, quand même un certain nombre d'établissements maintenant qui proposent une initiation une heure par semaine dès la première. Donc, au résultat, les moyennes au bac en philo sont supérieures en L aux autres filières.
Quel conseil donner à ceux qui vont passer la philo demain matin?
Alors, du coup, là, c'est une question très large.
Oui, mais à quoi il faut faire attention à partir du moment où on a les sujets sous les yeux?
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses clés. de manière très générale. La première chose, c'est le choix du sujet. C'est-à-dire qu'ils ont 4 heures, c'est relativement long. Il y a quand même peu d'élèves qui composent vraiment sur les 4 heures totalement. Et ils peuvent consacrer entre 10 et 20 minutes à choisir le sujet. Bien lire le texte, le lire plusieurs fois, parce qu'à la première lecture, on peut avoir l'impression qu'il est facile alors qu'il ne l'est pas, ou ne pas avoir les difficultés qu'il peut présenter. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je leur donnerais. Et se déterminer vraiment, on parlait tout à l'heure de l'enthousiasme qu'on peut avoir à composer, et c'est vrai, et je pense que ça nous rend meilleurs. Mais je crois aussi que le premier critère, c'est le contenu dont on dispose, en fait, la maths. Parce que dans la plupart des séries, pour la plupart des professeurs, c'est très difficile de traiter tout le programme à égalité. Donc il faut quand même aller vers la notion qu'on maîtrise le mieux. Et le deuxième conseil, je pense, très important, c'est d'exploiter les 4 heures. Et moi, je vois trop d'élèves qui partent trop rapidement, quitte à faire une pause, sortir. S'ils ont l'impression d'avoir fini, en fait, d'avoir fini le brouillon, d'être arrivés au bout de ce qu'ils ont à dire, à ce moment-là, avant de commencer à rédiger, prendre le temps de s'aérer un petit peu, parce que je pense qu'ils ne saisissent pas à quel point sur les 4 heures, il y a un temps de recherche, en fait, de production de matière.
Il y a une religion aujourd'hui sur les plans 2, 3, X parties ou
non.
Comment ça se passe?
Ça se passe bien, on travaille.
Alors, chacun fait ce qu'il veut, enfin, il n'y a pas de canon pour la dissertation.
On travaille en 3 parties, je pense, je n'ai pas parlé pour tous mes collègues, mais j'ai le sentiment que la plupart des enseignants travaillent en 3 parties. Mais, en tout cas, moi, le discours que je tiens à mes élèves, c'est qu'il vaut mieux un bon plan en 2 parties qu'un plan en 3 parties qui soit bancal ou la troisième partie, voilà, répéter les 2 premières parties. Donc, on est vraiment, il n'y a pas de copie type, il n'y a pas de référence attendue, il n'y a pas de plan type. La notation est très bienveillante. Donc, vraiment, on voit ce que l'élève produit. Et
qu'est-ce qui est rédhibitoire dans une copie de philo? On parlait de la sociologie dans une copie de français, ça c'est pas rédhibitoire, au contraire. Est-ce qu'il y a des choses rédhibitoires? Quels conseils on peut donner aux élèves qui passent la philo demain de ce point de vue-là?
Alors, moi j'ai l'habitude aussi de dire à mes élèves que rien n'est grave, parce qu'ils me disent toujours est-ce que c'est grave, est-ce que c'est grave. Et ponctuellement, en fait, un défaut n'est jamais grave. Ce qui est problématique pour un sujet de dissertation, c'est de ne pas traiter le sujet. Ce qui peut être quand même handicapant, c'est la récitation de cours. Et il y a aussi quand même beaucoup de copies qui sont des copies qui auraient pu être faites en début de terminale ou en fin de première, ou qui sont à partir d'exemples. Et c'est là où justement d'ailleurs la littérature, par exemple la sociologie, peut fournir des exemples de bien meilleure qualité que des exemples du quotidien. Et pour l'explication, bah, évidemment, ce qui est grave, c'est le contresens. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte quand on le fait par construction. Donc,
ouais, c'est...
Trop de citations.
Le plaisir,
aussi,
c'est
peut-être.
Pour après.
Trop
oui,
de citations. Comme pas mal d'étudiants, j'ai l'impression qu'ils se disent, bon, si je place ces 5 citations, ça va le faire. La copie, elle va avoir de la gueule, si je puis dire. Et en fait, voilà, à force de citer, mais s'il n'y a pas de réflexion autour et pas d'idée, ça peut être, je pense, pour le correcteur rédhibitoire, oui, se dire bon.
Enfin, et je rajoute la présentation. En philosophie, on a la particularité d'avoir plus de copies que dans les autres matières. Au bout de la 150e copie, les élèves doivent sauter des lignes, il faut écrire une ligne sur 2. Éviter, je ne sais pas pourquoi les élèves utilisent maintenant le blanc, l'effaceur n'existe plus, mais c'est très sale. Enfin, voilà, faut vraiment soigner la présentation, l'orthographe dans la mesure du possible, mais bon, c'est pareil, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais c'est sûr que le travail aussi de relecture est très important. Et du coup, moi, j'incite mes élèves à se relire au fur et à mesure, parce que c'est un peu facile de le faire d'un coup à la fin. Mais du coup, une fois qu'ils ont fini une partie, ils se relisent, et ainsi progressivement.
Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Alors, je voulais dire 2 petites choses. La première, c'était pour aussi bien le français que la philo. Quand on aborde un sujet, on est très stressé. Donc, le plus important, peut-être, c'est de lire très longtemps le sujet, mot par mot, en cherchant la définition de chaque mot, de façon à ne pas faire de contresens. Ça, c'était un très bon conseil d'un de mes professeurs qui m'a beaucoup réussi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ne pas zapper, ne pas dire j'ai compris, je sais de quoi on parle, pas du tout. Lire mot à mot. La deuxième chose, c'est pour la philo. Alors, en philo, je pense que le but final de la philo, d'apprendre la philo, c'est quoi? C'est d'apprendre à penser. Ça n'est en aucun cas avoir des références à donner dans un devoir. C'est pas ça. Donc, apprendre à penser, ça passe par, évidemment, la culture qu'on a acquise en étudiant les auteurs. Mais ces auteurs doivent vous servir à réfléchir vous-même et à faire un débat entre vous et vous. Pas entre vous et les autres. C'est penser par soi-même. Mmh. Et quand on fait ça, on est forcément original, puisqu'on donne ses propres idées et on a une bonne note.
Et c'est pas facile, hein, quand même, Sylvie.
C'est pas difficile non plus. C'est une discipline. C'est une discipline. C'est-à-dire que on se lâche des deux mains d'un seul coup et on se dit, voyons, si j'avais en face de moi quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui dirais quand il me dit ça? Et se répondre à soi-même tout le temps, ça finit par faire un devoir, complètement.
Espérons-le, en tout cas, qui veut réagir? Merci beaucoup Sylvie, bien lire le sujet, ça je pense qu'on est d'accord, décortiquer la question posée ou l'intitulé. Qui veut réagir? Vous voulez dire un mot, Aïda Ndiaye?
Oui, je peux répondre puisqu'il s'agit de philosophie. Alors, effectivement, bien lire le sujet, cela dit, le fait de le décortiquer mot par mot, ça peut être traître, parce que ça empêche d'avoir une saisie globale du problème. En revanche, je pense que là où l'auditrice...
Vous avez un exemple là, qui vous vient à l'esprit?
Eh bien, par exemple, si je vous dis, faut-il préférer le bonheur à la vérité? En fait, les élèves peuvent définir le bonheur, définir la vérité, sans du tout saisir, en fait, quel est le problème du sujet. Et souvent, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. En fait, la question, c'est l'articulation, et en fait, le mot, peut-être, dont il faudrait partir dans le sujet,
c'est préférer. C'est quoi le problème du sujet, d'ailleurs? Non mais allez-y.
Je ne crois pas qu'on ait 4 heures.
Prenez 3 minutes.
Le problème du sujet, c'est de choisir entre deux idéaux, en fait. L'un qui est peut-être plus agréable, mais qui peut reposer sur certaines illusions, et l'autre qui est plus exigeant, mais plus fiable et plus stable.
Bon. Manon, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, c'est bon. Bienvenue Manon.
Merci.
Tu as quel âge?
17 ans.
17 ans. Tu es en première?
Oui.
Allez, on t'écoute.
Alors, c'était pour demander quels étaient les meilleurs conseils pour l'épreuve de demain d'écrit de français, parce qu'elle était beaucoup plus difficile à préparer que l'oral, en fait.
Tu as eu du mal? Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Dis-nous.
Bah, pour l'instant, j'ai vraiment essayé de préparer chaque notion, donc de réviser le théâtre, le roman, l'argumentation, la poésie. Et de réviser les méthodologies pour la dissertation, le commentaire, la question de corpus.
Il y a un des exercices dans lequel tu te sens plus à l'aise. Tu es plus à l'aise en dissertation, en commentaire, dans le troisième exercice?
Alors, plutôt le commentaire, parce que c'est le plus simple des trois à mes yeux. Mais j'aimerais essayer la dissertation, parce que ça donne plus de points.
Alors, quel problème tu as dans tes révisions?
Bah, de savoir vraiment... qu'est-ce qu'il faut le mieux réviser et comment est-ce qu'on peut réussir à faire sortir sa copie du lot, en fait, pour qu'elle se démarque vraiment des autres et qu'on puisse apporter le plus de connaissances possible tout en répondant aux questions.
Reste avec nous, Manon, Brigitte Pro, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil?
Alors là, d'abord, le sujet de prédilection, a priori, commentaire composé, pour toi, Manon. Du coup, c'est vraiment le plan A, a priori, c'est cela qui va te permettre une stabilité et une sécurité. Après, tu souhaites tenter la dissertation. Pour moi, tenter la dissertation, il s'agirait que tu te sois entraîné auparavant. Est-ce que tu as fait une dissertation récemment?
Oui, dans l'année, on s'est entraîné.
Mais dans l'année, récemment? C'est quand?
Il y a plusieurs mois.
Oui.
Et on a fait une méthodologie il y a quelques semaines.
D'accord. Et la dissertation, il y a plusieurs mois, quelle note as-tu eu?
7 sur 16.
Combien?
7 sur 16.
7 sur 16. Du coup, note sur 16 maintenant?
Oui, parce qu'il y a la question de corpus en français. Vous avez une première question qui s'appelle la question corpus sur 4 points. Mmh. Et vous avez sur 16 points, soit commentaire composé, dissertation ou sujet d'invention. Et du coup, si tu maîtrises, Manon, le commentaire composé, tu parles là-dessus. Alors, ceci dit, par rapport à la dissertation, ton résultat de ce moment-là, a priori, ça t'insécurise si tu n'en as pas fait entre ce jour-là et aujourd'hui. Il est un peu tard ce soir pour faire un sujet type bac, simplement... Si vraiment ça te sécurise ce soir, il s'agit peut-être de faire un plan détaillé, sans prendre 3 heures, mais un plan détaillé, et si tu peux le soumettre peut-être à quelqu'un qui pourrait le regarder. Simplement, c'est quand même une prise de risque, en tout cas, par rapport à ce que
oui,
tu,
de se lancer
ce
dans
à quoi
un
tu réfléchis
qui
ce
pas
soir.
Nécessairement, voilà. Maîtrisé.
C'est ça. C'est tard, en fait, là. Hein. Il s'agit de voir, effectivement, comment tu peux... Alors, si ça te sécurise même... pour le choix du commentaire composé demain, de te dire « Ah, je peux entrer quand même dans le plan B de la dissertation », eh bien, dans ce cas-là, il s'agit de faire un plan détaillé. Tu as les annales corrigées. Hein, du coup, un plan détaillé vraiment dans la durée de type bac, en tout cas correspondant au plan, donc bien moins de 3 heures évidemment. Et après, tu regardes le corrigé. Et si tu en es très loin, hein, ou si tu en es plus près, ben, à un moment donné, tu vas évaluer là où tu en es. Mais en tout cas, dans ta demande, il n'y a pas de recette miracle, tu sais, pour se détacher de... En fait, ça n'existe pas. En revanche, évidemment, c'est l'entraînement qui donne le résultat. Du coup, si tu avais fait, tu vois, une dissertation un petit peu plus récemment, ça aurait été évidemment plus sécurisant pour toi.
Voilà Manon, tu as ta réponse, d'accord. J'espère. Bon courage à toi pour demain, l'écrit de français. Gino, merci bonsoir. Beaucoup. Merci bonsoir. À toi. Bienvenue Gino.
Merci de votre émission.
Merci à vous.
Je vous appelle parce que moi, il y a 19 ans, j'ai passé le bac, un bac littéraire, et le prof de philo nous disait surtout, ne révisez pas, enfin, je ne vois pas ce que vous pouvez réviser en philo, il s'agit juste de bien penser.
Ça, c'est la philo ténébreuse, ça.
Voilà, peut-être. En tout cas, il nous disait aussi de ne pas prendre le commentaire de texte, mais de nous diriger vers la dissertation quand on était en littéraire. Et j'ajoute que, en suivant son conseil, j'ai eu 14 au bac. C'est la meilleure note en philo que j'ai jamais eue.
Et il faut peut-être pas en tirer une règle générale. Hein.
Exactement, c'est ma question.
Ne travaillez pas en philo, vous aurez une bonne note.
J'ai repris des études entre-temps en théologie et j'ai appliqué la même méthode en philosophie et j'ai eu 12. Donc de fait, ouais. Je m'interroge. Enfin,
moi voilà. J'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu une note minable. Ça arrive hein, en philo aussi.
Ça équilibre.
Merci Gino pour votre merci intervention. Aïda Ndiaye, ça se travaille quand même la philo. Hein.
Oui, alors je pense que Gino est un excellent professeur qui l'a fait travailler toute l'année sans qu'il s'en rende compte. Ça nous ramène à ce que disait l'auditrice précédente sur le fait qu'il faut penser par soi-même et ne pas utiliser de référence. Il y a une matière en fait. Il y a une matière qu'on enseigne. Et pour moi, l'idée, c'est que on apprend à penser non pas comme disait l'auditrice, je crois. Avec soi, mais avec d'autres en fait. Et donc, dans une dissertation de philosophie, pour comprendre le problème et pour le traiter, il faut avoir une perspective, une richesse qu'on ne peut pas avoir sans un minimum de matière. Sinon, on a des copies comme celles que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des copies qui peuvent être faites en première où on n'a que des exemples du café du commerce. Donc,
Julie Mlechko, oui, on ne peut pas donner comme conseil de ne pas travailler.
Non.
Soir, c'est peut-être un peu tard.
Non, mais je comprends l'auditeur. C'est vrai que ça. Il y a la chance aussi, en fait. Vous arrivez sur des sujets que vous maîtrisez, qui vous inspirent. Enfin, voilà, la chance joue. Je pense qu'il a eu de la chance aussi. Par contre, je pense qu'en effet, il faut travailler, mais il faut s'écouter. Je vois trop d'étudiants qui disent, en effet, en français, je vais pas prendre le commentaire de texte. C'est trop dangereux. Au moins, la dissertation peut s'en sortir. C'est quelque chose qui ressort. Je m'étais dit la même chose, en toute honnêteté. Et quand je suis arrivée dans le sujet. C'est le commentaire de texte qui m'a attiré. Je me suis dit non, en fait, là, non, ça m'intéresse, je vais m'en sortir. Donc, il faut aussi s'écouter. Et voilà, si on maîtrise les deux exercices, s'écouter et se dire non, c'est là que je me sens mieux.
Brigitte Pro, vous voulez dire un mot? Non?
Oui, je confirme ça, effectivement. Là, il s'agit de s'écouter, oui. Du coup, si la sécurité est du côté d'un sujet, il s'agit évidemment de ne pas se faire de mal, quoi, mais plutôt de se faire du bien. Oui.
Glenn, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci.
On vous écoute.
Moi j'ai 30 ans maintenant, donc ça fait un petit moment, mais je voulais savoir, moi à l'époque, nos références c'était surtout les films, et je voulais savoir si vous prenez en compte maintenant les références de films comme bon, quoi, parce que il y a...
Est-ce qu'on peut citer des films en philo, c'est ça la question?
Ouais, c'est ça.
Quel film? Vous pensez à un film en particulier?
Non, des films assez connus, quoi, après.
Par exemple?
Il y a des... je sais pas, par exemple, il y avait Star Wars, le combat entre le bien et le mal, c'est vachement bien, quoi, je trouve. Après, ça dépend du sujet, quoi, et puis ça dépend des films, quoi. C'est un peu les seules références qu'on a en tant que jeune, quoi.
Vous avez fait quoi après, comme études après le bac?
Électrotech, ouais.
Ah oui, d'accord. Et vous étiez servi du cinéma quand vous l'avez passé?
Non, même pas.
Même pas.
Non, on n'avait pas le droit.
D'accord, vous n'aviez pas le droit. Merci Glenn pour cette intervention, la place du cinéma Aydan Ndiaye dans les Covid Philo.
C'est beaucoup plus ouvert maintenant. Moi, depuis que ça fait 12-13 ans que j'enseigne, ça a beaucoup évolué. Les séries aussi. Bon, effectivement, je veux dire, Star Wars, il y a eu des ouvrages de philosophie, Matrix. Il y a quand même des grosses références qui ont un contenu philosophique qui est important. Moi, j'ai travaillé sur ces films avec mes élèves. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire.
La question de l'élaboration philosophique ensuite d'un propos autour d'un film,
et
j'imagine.
Idéalement qu'il y ait quand même une référence philosophique qui amène en fait après la référence cinématographique comme un point d'appui, mais pas comme le départ de l'argumentation, pardon. Et comme toute référence, il faut aussi que ce soit maîtrisé par l'élève, donc que ce ne soit pas quelque chose qui est dit comme ça de manière superficielle et trop rapidement.
Damien, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir à tous. Merci. Moi, je vous téléphone. Alors déjà, je vous remercie pour la qualité de vos émissions. Et c'est très agréable de vous avoir tous les soirs quand on est au travail.
C'est gentil. Merci.
Et donc voilà, moi, j'avais un petit message pour les étudiants. Alors, je ne sais pas si c'est très utile dans la réflexion de tout le monde, mais je voulais leur dire que moi, je suis jeune installé en Mayenne en agriculture. Et surtout, ça fait 7 ans que je suis sorti de bac. Et je veux leur dire que ils stressent peut-être aujourd'hui, mais faut qu'ils se relaxent. Et ce qu'ils retiendront dans 7 ans comme moi, c'est surtout les bonnes années qu'ils ont passées au lycée, ce qu'ils ont appris et les bonnes choses qu'ils ont faites et apprises avec les copains. Et c'est là qu'on noue le plus de liens. Et c'est ça le plus important, quoi.
Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup. Oui, ne pas stresser et se dire que dans quelques années, ces souvenirs-là seront merveilleux. Effectivement, il a tout à fait raison, Damien.
Le jour des épreuves, on peut pas. Enfin, on peut pas se dire
ça. Ça s'appelle une épreuve, donc
c'en est une. Non. Après, avec le recul, c'est vrai qu'on se dit ça. Évidemment, au bout de même un mois ou le jour même des résultats, ouais, on prend du recul et on se dit non, mais en fait, voilà, j'ai fait une étape. C'est une étape dans ma vie, etc. On prend du recul, mais le jour même, c'est toujours compliqué de pas stresser et de se dire.
Sur la gestion du stress, Brigitte Pro.
Alors la gestion du stress, il y a deux points en fait. Il s'agit d'arriver aux épreuves relativement sécurisées en termes de connaissances déjà. Hein. Et puis il y a la question aussi de la gestion du temps, car le temps crée en tout cas du stress chez les candidats. Du coup, évidemment, ce qui est non négociable, c'est d'apporter une montre aiguille ou un cadran aiguille dans une trousse. Hein. Et on n'est pas obligé de porter une montre aiguille, mais en tout cas pour vraiment organiser son temps. Être maître du temps et non pas se laisser entraîner par le temps, du coup. Et
par exemple, macronien, ça, désormais. Être maître du temps.
Alors là, il y a effectivement une actualité. En tout cas, il y a l'organisation et surtout dans ce travail-là, et particulièrement à partir de demain, évidemment, on peut imaginer philo ou français ou d'autres matières après, c'est vraiment organisé concrètement. Donc à telle heure, j'aurai terminé mon plan, à telle heure, je commence à rédiger. Et le côté non négociable, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire relire, c'est-à-dire intégrer un temps de relecture, vraiment intégrer aux différentes tâches et non pas dire j'aurai terminé à cette heure-ci s'il n'y a pas de relecture. Pour moi, le travail n'est pas terminé. Et là, l'organisation du temps, être maître de son temps, je m'aperçois que ça libère beaucoup sur la question du stress. Et puis, ce qui réduit le stress, c'est évidemment d'arriver le plus solide possible à l'épreuve. Bon, alors après, évidemment.
Oui. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci à vous. Merci pour votre émission. Je répète, je suis un aficionado et
c'est
juste
gentil.
Anecdotique. J'ai deux enfants, dont un qui a 8 ans, et on écoute régulièrement la radio, donc le téléphone sonne. Et c'est sympa d'avoir un gamin de 8 ans qui réagit qui s'intéresse à ce qui se passe. Donc voilà, c'est anecdotique.
On fera une émission spécialement pour lui, pour les enfants de 8 ans.
Je peux me permettre de passer un petit coup de vue parce que je suis enseignant, je suis prof de lettres et je m'intéresse au sort de mes ouailles. Et je voulais donner un conseil parce que là, j'ai pris l'émission en cours, mais on parlait beaucoup de la dissertation des commentaires. Force est de constater qu'il y a aussi le sujet d'invention qui est pas mal pris.
Ça, c'est en lettres.
En lettres, voilà. Ouais. Et qui est très complexe parce que chaque année, c'est un casse-tête pour nous lorsqu'on fait les commissions d'harmonisation parce que c'est un sujet souvent qui est mal traité. Et moi, le conseil que ma petite échelle, je me permets de donner, c'est que si vous voulez, tous les lycéens qui écoutent, prendre le sujet d'invention, vous pouvez le prendre. Faut pas être dissuasif. Par contre, je vous conseille de lire très attentivement l'énoncé de la dissertation. Pourquoi ? parce que la dissertation, souvent, est en corrélation avec l'invention, si le sujet est bien fait. Et l'invention est une dissertation déguisée, bien souvent. Mmh.
Donnez-nous, Benjamin, un exemple de sujet d'invention.
Alors, souvent, très souvent, alors que l'épistolaire n'est plus à l'ordre du jour, hein, très souvent, on a des sujets du type « réagissez ». J'en prends un, là, en tête, que je travaillais dessus avec mes élèves. Par exemple, sur la poésie, répondait à une critique d'un auteur qui estimerait que la poésie lyrique n'est pas susceptible de toucher le plus grand nombre.
Ah oui, c'est quand même très très technique, hein.
Bah, c'est pointu, et souvent d'ailleurs, les élèves prennent l'invention pensant qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Or, il faut citer le corpus, il faut des références précises, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une dissertation déguisée, le sujet d'invention. Mmh. Et très souvent, si le corpus est bien fait, un, on peut s'appuyer sur des éléments du corpus, et deux, on peut même citer. Je pensais le sujet que vient de vous citer, pour le sujet de dissertation, il y avait une réaction de Victor Hugo, en fait, c'était « Pauvre lecteur, quand tu crois que je parle de moi, en fait, c'est de toi que je parle. Mmh. » Et il est très bon de commencer par ça, en fait, son sujet d'invention. Donc, lisez impérativement l'énoncé de la dissertation, vous en inspirez, vous réfléchissez, et après, vous pouvez traiter le sujet d'invention.
La dissertation reste un exercice très couramment pratiqué, parce que c'est difficile de disserter. Vos élèves choisissent quoi, en général? Ça se répartit harmonieusement entre les trois exercices?
Non. Les chiffres, je peux vous les donner, ils sont très clairs. En fait, la dissertation, elle est prise, ça dépend des années, mais à peu près entre 5 et 7% au niveau national des copies prennent la dissertation en lettres.
Ah oui, c'est très très peu. Ouais.
C'est un épiphénomène. Le problème, c'est que souvent, les élèves pensent, à juste titre, mais on peut mitiger, ils estiment qu'il faut énormément de connaissances. Or, moi, j'essaie de démontrer à mes élèves qu'on peut traiter, c'est pas une accumulation d'exemples littéraires. Mmh. Une dissertation peut traiter une très bonne dissertation en prenant, sur les plans dialectiques, thèse, antithèse, synthèse, deux exemples pour la thèse, mais développés, cités, deux exemples pour l'antithèse, deux exemples pour la synthèse. Avec six exemples, sur un programme, en fait, qui prend quand même troisième, seconde, première, on peut traiter une dissertation. Mmh.
Et le commentaire de texte arrive en quoi? En deuxième position devant l'invention?
Non, souvent en première position, c'est quand même le sujet qui est le plus rassurant, parce que pour le coup, il y a la matière texte qui fait que les élèves se disent, voilà, ils peuvent pas faire de leur sujet. Après, ils vont faire un commentaire qui va être bon ou moins bon, mais il n'y a pas de leur sujet. La dissertation, ils peuvent tomber à côté, et l'invention, ils peuvent tomber très largement à côté. Après, selon les années, on peut avoir des années où l'invention paraît simple, la solution un peu de facilité, et souvent, plus l'invention paraît simple, plus elle est prise, et plus souvent, c'est l'exercice passé à l'expression un peu casse-gueule, qui ne marchera pas.
Ok, merci Benjamin pour ces conseils, donc pour ceux qui passent l'écrit du bac français demain. Merci à toutes les trois pour votre intervention dans le téléphone sonne. Bon courage aux candidats. Voilà, ça va bien se passer, ce sera encore une fois beaucoup de plaisir. Il faut en prendre en tout cas. Le journal à suivre.